Bon. Parfait. Bien. Voilà. Eh bien, nous poursuivons notre petit travail sur la sculpture en France au XIXe siècle. C'est l'acte 3 de cette série, et vous connaissez bien sûr nos règles, je passe très vite dessus. Et vous connaissez également la méthode que nous avons mise en place la semaine dernière, puisque la séance va s'organiser en trois temps. Un premier temps où on va voir une œuvre importante, une sorte de chef-d'œuvre, qui nous permettra, j'allais dire symboliquement, d'entrer dans cette troisième séance. Vous savez qu'elle concerne une phase postérieure, celle qu'on a vue la dernière fois. La dernière fois, on était sur le néoclassicisme et sur le romantisme. Cette fois, nous sommes plutôt sur l'éclectisme et le réalisme. Vous vous rappelez du petit canevas que nous avions travaillé la première séance. C'est donc bien ça que nous allons voir aujourd'hui. Et après avoir été entré dans cette période par ce chef-d'œuvre que nous allons voir d'abord, j'aurai l'occasion de vous montrer un diaporama d'une vingtaine d'œuvres qui nous permettra, comme la fois dernière, de déconstruire les choses, de comprendre les sujets, les sculpteurs, les matières, etc. Et puis après, il y aura la question du jour pour terminer la séance. Ça va ? Parfait. Alors, nous entrons dans la carrière en voyant l'œuvre qui est... Oh là, ça ne s'arrange pas au niveau de la couleur. Hein. Bien, bien. Ça a été signalé, mais visiblement, la personne qui fait la maintenance a le Covid. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le Covid. Voilà, voilà. Donc, évidemment, il n'a pas maintenu. Donc, je ne suis pas sûr que la qualité des photos soit à la hauteur. Enfin, on va essayer de se retrouver quand même. Voilà donc l'œuvre qui est l'œuvre du jour, si j'ose dire. Qu'est-ce que... peut-être vous connaissez ça. Alors d'abord, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que c'est que l'œuvre que vous avez sous les yeux?
Il y a plusieurs personnes.
Il y a plusieurs personnes, effectivement. Un globe. Un globe.
Un petit globe.
Terrestre. Alors, il y a effectivement un globe qui semble être un globe terrestre, dans une cage, qui serait quel genre de globe, alors?
Céleste.
Voilà, c'est ça, c'est un globe terrestre dans un globe céleste. Hein. Parce que vous avez un globe terrestre au centre, effectivement, mais extérieur, il y a plutôt un globe céleste, effectivement.
Bien. Et ça tourne.
Et voilà, en tout cas, ça donne...
Il y a les signes du zodiaque.
Il y a les signes du zodiaque. Voilà. Et il y a des personnages. Dis-y, plusieurs même.
Au moins quatre.
Hein. Au moins quatre. Ce serait quoi ces personnages de l'univers? Pardon?
Les saisons.
Les saisons, c'est les quatre saisons. Pourquoi pas? Le temps, le monde, les quatre saisons.
Les continents.
Les continents.
Il en manque un.
Non, il en manque un.
Ah, il en manque un.
Il
n'y en a que quatre. Donc ça ne collerait pas. Bon, donc on serait sur les saisons, les quatre saisons. Les quatre saisons, ça va avec le temps, ça va. Elle voit ça ?
Il y en a un qui est enchaîné à la cheville.
Il y en a un qui est enchaîné à la cheville.
Oui.
Ça ne va pas avec les saisons.
Ça ne va pas avec les saisons.
Et il a une boucle d'oreille et c'est l'Afrique.
C'est l'Afrique ?
Ah
ouais. Et puis, ouais, donc on reviendrait sur l'idée des continents.
Des continents, oui.
Ben, il y en a peut-être cinq personnages. Hein.
Non, c'est pas bien.
Non, mais peut-être qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas le
cinquième. L'Australie a été, entre guillemets, découverte, parce qu'elle était connue par bien d'autres, mais par les Occidentaux à la fin du 18e, la deuxième moitié du 18e. Hein. Enfin, elle était connue en Extrême-Orient depuis toujours, si j'ose dire. Bon, et donc on aurait là une œuvre qui représente quatre personnages, semble-t-il, en train de tenir le monde qui est à l'intérieur d'un globe céleste. Les signes du zodiaque sont même ici représentés. Ces quatre figures seraient peut-être les saisons, peut-être des continents, mais avec le problème de quatre continents au lieu de cinq, qui fait un peu désordre, si j'ose dire. Bon. Et si vous aviez à caractériser un peu cette œuvre, vous diriez quoi ?
Allégorique.
Pardon ?
Allégorique.
Allégorique, oui, c'est une œuvre vraiment tout à fait allégorique, effectivement.
En extérieur.
En extérieur, ouais. Et en quelle matière ? On ne l'a pas dit, ça, encore. Enfin, ça, avec la photo, vous voyez très mal. Hein.
On verra.
Oui, c'est du bronze. Oui, c'est du bronze. C'est du métal, en tout cas. Voilà. C'est du bronze, ouais. Vous avez une idée de... Enfin, vous, je, là aussi, si vous continuiez à la caractériser, vous auriez des choses à dire pour plus ou...
Grande.
Grande, oui, c'est effectivement grand.
Dans un parc de château.
Dans un parc de château. Ok. Vous, avez, vous savez où, peut-être?
Bon, non. Si,
ça me dit quelque chose, mais...
Mais ça s'arrête là.
Ça s'arrête là. Une idée peut-être de l'auteur.
Oula,
ah, non. C'est trop demandé.
Oh. Est-ce qu'on l'a déjà vu?
L'auteur?
Oui.
Oui.
Ah.
À la première séance, pas la deuxième, parce que la, deuxième était sur la période précédente. À la première séance, oui. Un auteur, il n'est pas le moins célèbre. Hein. Pardon.
Carpeau.
Très bien. C'est Carpeau. C'est effectivement Jean-Baptiste Carpeau. Et alors, cette œuvre que vous avez là, enfin, regardez le. Voilà. Il s'appelle La Fontaine des quatre parties du monde. Vous aviez raison. Hein. C'est une époque, en fait, où l'Océanie n'est pas perçue comme un continent, si vous voulez. Elle est. Là, c'est chapelet d'îles au milieu des flots, si j'ose dire. Ne forme pas un continent réel, ou alors c'est plus ou moins une Amérique, j'allais dire, insulaire, enfin voilà. Donc, c'est la fontaine des quatre continents, ou des quatre parties du monde, on lui donne les deux titres, c'est de Carpeau, et ça se trouve donc à Paris. En fait, la place Ernest-Denis, vous voyez là, c'est au bout du jardin Luxembourg. Vous voyez le jardin Luxembourg, hein. Vous voyez où est le palais Luxembourg. Donc derrière le palais Jérôme, il y a le jardin Luxembourg. Et si vous allez tout à fait au bout du jardin Luxembourg, il y a une place, c'est la place Ernest-Denis, où se trouve cette fontaine, qu'on appelle aussi parfois la fontaine de l'Observatoire, parce que l'Observatoire n'est pas très loin. Hein. Voilà. Et donc on l'appelle souvent comme ça, plus que autre chose. Voilà. Voilà, donc ça c'est une œuvre aussi assez... Comment je dirais, assez alerte, vous voyez, il y a, ça bouge, c'est assez dansant. Il y a là quelque chose qui nous emmène assez loin du hiératisme antique et noble qu'on a vu avec le néoclassicisme. On n'est pas non plus dans ces espèces de passions romantiques qui nous ont traînés vers les tréfonds la dernière fois. On est là dans une sorte d'Occident triomphant qui s'intéresse au monde d'une manière dansante. Hein. On a l'impression que ces personnages dansent, c'est plus qu'une impression. Bref, voilà, je trouve que c'est une œuvre qui est assez symbolique de la période que nous allons aujourd'hui regarder d'un peu plus près. Alors, vous êtes d'accord pour qu'on commence ? Donc, vous savez ce qu'il en est. Les œuvres que je vais vous montrer là sont montrées de manière chronologique. Ces deux œuvres, donc, appartenant encore une fois à ces courants qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, hein, on en a parlé la dernière fois, hein, l'éclectisme et le réalisme. On est donc plutôt dans la deuxième moitié du 19e, quand la dernière fois, on était plutôt dans la première. Et on va essayer de voir ces œuvres qui, encore une fois, sont classées de manière chronologique et d'en dégager, ce qu'on peut en dégager, sur le plan technique, de la matière notamment, mais aussi sur le plan de la manière de représenter des thèmes qui sont figurés.
Et celle-là, alors, on la classe dans l'éclectisme ou le
réalisme ? Oh, c'est plutôt une œuvre éclectique. Ouais. Carpeau est un sculpteur qui... Voilà, qui c'est un sculpteur très du Second Empire, si vous voulez. Hein. Et le Second Empire, c'est vraiment le moment même de l'éclectisme. Je trouve que ça triomphe. Quoi.
Qu'est-ce que vous appelez l'éclectisme ?
Pardon ?
Qu'est-ce que vous appelez l'éclectisme ?
Ben, l'éclectisme, c'est quelque chose qui va dans tous les sens, si j'ose dire. C'est quelque chose, c'est un courant qui est éclectique, en ce sens qu'il s'intéresse à tout, il va un peu dans tous les sens. Et c'est un courant qui, comment dire... célèbre l'ivresse du monde d'une certaine manière. Hein. On n'est pas encore une fois dans le côté dans le côté hiératique de l'Antiquité. Hein. On n'est plus devant des Vénus impeccables et des Apollons tout droit. On n'est plus non plus, rappelez-vous, l'époque romantique, hein, dans l'antichambre de l'enfer ou du paradis. On est dans quelque chose qui est une sorte de c'est au fait de mal. Voilà, hein. On est dans un moment où on se réjouit du monde et de tout, en quelque sorte. C'est l'Opéra de Paris. Hein. L'Opéra de Paris, c'est le monument de l'éclectisme. Une espèce de côté phosphorescent, un feu d'artifice, où on prend une espèce de plaisir à voir les choses et à représenter aussi bien une chinoise dansant que une jeune femme en train de prendre son thé. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est qui décidément va dans des tas de sens, qui s'intéresse à l'historicisme aussi, mais on va le définir aujourd'hui en voyant les œuvres. C'est bien le but de la séance, d'ailleurs. Voilà. Donc, cette séance s'intéresse à l'éclectisme, au réalisme. On va un petit peu voir comment tout ça se perd. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire là ?
Plutôt réaliste.
Plutôt réaliste, effectivement. Oui, vous disiez, pardon ?
C'est une scène de la vie.
Oui, oui.
Une scène de rue.
Oui, une scène de rue, effectivement. Donc,
il manque
on a
une tête.
Pardon ?
Il manque une tête.
C'est bien possible.
Oui,
à quel endroit ? Ah oui, le personnage de droite, oui. Oui, exact.
C'est l'enfant.
Donc, une scène effectivement réaliste, une scène de rue qui pourrait s'appeler comment d'ailleurs, peut-être ?
Conversation.
Conversation ? Ok.
La mendiante.
La mendiante.
Je sais pas, on dirait qu'il y a des gens riches qui viennent et puis elle fait un peu la manche.
Ouais, donc on aurait des gens riches et elle qui mendie. Bon, en tout cas, vous l'avez bien dit, il y a une scène très réaliste. On est là dans une sculpture de quel ordre, quelle taille, quelle...
Pas très grand.
En terre. Oui. Donc, une sculpture en tête d'assez petite dimension, effectivement. Donc, une scène réaliste. Vous avez une idée de l'auteur ?
C'est écrit.
Alors, vous lisez.
Grévillon.
Graillon. Graillon. Pas un nom super. Voilà. Il s'appelle Graillon. Dommage, on fait rire. Il s'appelle Graillon. Hein. Donc, c'est effectivement une sculpture, vous avez bien défini, hein, très réaliste. C'est une scène de rue, entre guillemets, qui s'appelle Groupe de Bohémiens, en fait. Hein. Et Graillon est un sculpteur qui, vous le voyez, est originaire de Dieppe. Hein. Le musée de Dieppe a une très belle série d'œuvres de Graillon. Ça vous montre quoi, ça aussi ? Voilà un sculpteur qui naît à Dieppe, qui meurt à Dieppe, qui réalise cette terre cuite de petite dimension. Peut-être que ça peut suggérer aussi quelque chose, ça.
Tout ne se passe pas à Paris.
Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut bien voir aussi que très souvent, on a une vision, vous voyez, effectivement, de l'art à cette période comme très centralisée. Alors, il est vrai que Paris, c'est un peu le centre du monde sur le plan artistique à l'époque. Hein. Tout le monde y passe. C'est devenu la Rome du 19e. Hein. Bon. Mais malgré tout, il se passe d'autres choses. Et Graillon est le type même d'un artiste local qui naît à Dieppe, qui meurt à Dieppe, mais qui a vraiment une carrière, encore une fois, très locale, normande, si vous voulez, mais en même temps, qui dépasse simplement ce recoin de territoire par des œuvres marquées effectivement par le réalisme, on l'avait bien vu. Parfait. Eh bien, on continue.
Éclectique.
Oui, une œuvre plutôt éclectique, effectivement.
Avec ses bras.
Alors, ça représente quoi ?
Un buste de femme.
Avec un voile.
Oui, voilé.
Avec un voile transparent.
Oui, un voile transparent. Un peu mortuaire.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'expression du visage.
Oui, mais le côté voilé, il faut penser un peu à cette dimension mortuaire. Hein. Il y a des fleurs. Qu'est-ce qui a intéressé le sculpteur dans une œuvre telle que celle-ci ?
Le drapé.
Oui.
La transparence,
du drapé et du corps, l'occurrence du visage, absolument. Hein ? Ok. Et il y a autre chose qui me frappe quand même.
L'expression, si elle semble un peu surprise.
Oui.
La tête, elle est
face. Oui. Il y a du mouvement, ce n'est pas statique, effectivement.
Exprime un sentiment.
Oui. Il y a une autre chose qui me frappe, moi. C'est peut-être l'esprit mal placé, mais quelque chose qui sort de la bouche.
Tout est transparent.
Non,
c'est
ça.
Oui, un pli, en tout cas. Hein. un pli sur la bouche, un peu spécial. Ouais.
Même si elle se voile, elle est très suggestive au niveau de sa nudité.
Oui, je trouve aussi. Hein, ouais. Au niveau de la poitrine, voilà, c'est assez... Vous parliez de la transparence du drapé, c'est vrai pour le visage, c'est vrai aussi pour les seins. Hein. Donc il y a vraiment une très grande transparence que je qualifierais même d'un peu coquine, vous voyez. Donc il y a aussi une dimension, ça aussi c'est l'éclectisme. Hein. On n'est pas dans le caractère figé des grands héros antiques, intouchables. Il y a une dimension, ça, qui peut être un peu polissonne, vous voyez. Et là c'est une chose, je crois, qui apparaît, et même si cette sculpture peut faire effectivement penser à une chose un peu funéraire, etc., on est un peu frappé par la dimension triviale, pour ne pas dire assez sensuelle. Hein. Une sensualité qui n'est pas, encore une fois, de marbre, mais qu'on aimerait découvrir, d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Chose qui est un peu... c'est presque un peu provocant, si vous voulez. Hein. Ça aussi, c'est très éclectique, ce côté un peu égrillard, si vous voulez. Hein. Qui n'est pas du tout quelque chose qu'on voyait avec les néoclassiques. Vous rappelez, les néoclassiques, on avait envie de les mettre sur un socle à 15 mètres de haut, puis voilà. L'éclectisme est quelque chose qui est comme ça, plus sensuel. Hein. Une idée d'un auteur, peut-être ? Non ? Alors, l'auteur est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses comme ça, beaucoup de ses bustes féminins, un peu comme ça, assez contorsionnés. Il y a des bacchantes, il y a toutes sortes de figures, un peu, comment dire, gentiment provocantes, comme ça, très accortes, hein, et qui s'appelle Carrier-Belleuse. Et en fait, ça représente une vestale. Hein, une vestale. Alors, vous aviez bien vu d'ailleurs le côté un peu ambigu, c'est-à-dire le côté un peu offert de la figure, hein, avec les éclectiques, vous savez, les dieux, j'allais dire, tombent de leur socle, hein, ils viennent un peu. Alors, une vestale, c'est pas un dieu, mais c'est une prêtresse, hein, qui est vouée aux dieux, qui, vous savez, doit être chaste toute sa vie, etc. Les vestales ont un sort un peu particulier, d'autant qu'elles ne doivent pas non plus laisser s'éteindre la flamme. Vous le savez, si c'est le cas, on les enterre vivantes. C'est pas vraiment un sort formidable. Hein. Et vous avez bien vu, je crois, justement, qu'il y avait dans l'expression quelque chose qui était de l'œil un peu de l'ordre un peu du deuil. Quoi. C'est-à-dire qu'on sent bien que la vestale, elle est... c'est pas... son sort est un peu lourd. Quoi. Voilà. En tout cas, bien que ce soit une vestale avec ce sort lourd, on a vu comment c'était un peu douché par cette idée très sensuelle, cette poitrine généreuse qui apparaît à peine et suffisamment. Ça, c'est très Carrier-Belleuse, espèce de manière de souffler le chaud et le froid. Suivant.
C'est réaliste.
Encore un buste.
En pierre différente.
En pierre différente, oui.
Marbre.
C'est du marbre ? Bon, vous voyez mal. Hein.
Ça a l'air.
Ça a l'air.
Je sais pas, c'est pas des pierres.
Ce sont des pierres.
C'est de la pierre, oui. Il n'y a que de la pierre ?
Je ne sais pas, des dessins ou de la peinture ou...
Alors, à quel moment vous voyez de la peinture sur le buste ?
Je ne sais pas, mais le rose.
Ah oui. Non, c'est la pierre.
C'est la pierre.
Mais il y a également, vous le disiez, oui, il y a également du métal, il y a du bronze. Qu'est-ce qui est en bronze là ? La tête. La tête est en bronze, alors que tout le reste, y compris le socle, hein, c'est de la pierre.
C'est pas du marbre.
C'est pas du marbre.
Ah oui.
Non, c'est une pierre qui est assez proche du marbre, mais qui souvent est, j'allais dire, a quelque chose de plus translucide, j'ai presque dire de plus savonneux que le marbre.
L'albâtre.
Alors, on pourrait penser à l'albâtre.
Onyx.
C'est de l'onyx.
L'onyx.
L'onyx avec le cœur, comme ça, des veines, on l'avait aussi, mais très. C'est donc de l'onyx. L'onyx, c'est du bronze. Alors, là-bas, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un granit, mais très. Poli. Bon, et donc ça représente quoi ?
Un
noir, un homme noir, avec un turban,
jeune,
plutôt jeune.
Très réaliste au niveau des traits.
Il y a une dimension réaliste, effectivement. On identifie tout de suite ce personnage, oui.
Oui, mais c'est réaliste.
Voilà. C'est un réalisme un peu champagne. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, vous avez raison, c'est réaliste, on sent la tête du personnage, elle, enfin, je veux dire, on en croise dans la rue tous les jours, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment une, c'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas idéalisé, je dirais. En même temps, le côté, regardez, par exemple, une espèce de turban extravagant, ou bien le buste qui est couvert d'étoffes, une sorte de collier, là, étonnant, enfin, avant que ce soit les boutons.
Oui, c'est les boutons, c'est
comme un cafetan. Oui, ouais, c'est ça, un cafetan. Évidemment, tout ça est un peu, sort un peu du réalisme. Je ne dis pas que les cafetans n'existent pas. Hein. Je dis que là, on a une vision un peu superlative d'un homme noir, vous voyez. On est plus dans le harem de quelques palais oriental que dans la rue à Paris. Voilà. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon?
Il y a de l'élégance.
Il y a une sorte d'élégance, de noblesse, n'est-ce pas? Alors, non pas que la noblesse et l'élégance ne soient pas des éléments réalistes, hein, mais effectivement, là, on est dans quelque chose qui, aussi bien... Enfin, je dirais que le matériau accompagne l'espèce de dignité fière du modèle, vous voyez, hein, qui va au-delà d'une sorte de réalisme un peu de base, hein, et, mais qui nous hisse, si j'ose dire, vers une espèce de panache. Hein. Il y a du panache, vous voyez. L'éclectisme, c'est ça. Hein. Comme ça, ce genre de choses, vous mettez ça dans le hall de l'Opéra de Paris, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Au milieu des ors, des pampilles, etc., ça roule. Hein. Voilà. C'est pas une terre cuite, comme graillon. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, vous êtes l'onyx, c'est cher, etc. Vous voyez, le matériau, il accompagne le truc. Une idée de... Alors, il y a peut-être autre chose à dire, d'ailleurs, au niveau de la technique, du matériau.
Ben, c'est les associations de pierre et
marais. Ouais.
C'est virtuose, comme on avait vu.
Musée d'Orsay.
Oui, c'est un musée d'Orsay. Dans la grande nef centrale. Ouais, ouais,
ouais. À côté de celle qui...
Oui.
La science dévoilant...
Non, alors, alors, la science, elle est la nature. Oui. C'est la nature qui se dévoile. Elle est au premier étage. Lui, il est au rez-de-chaussée. Ah, oui. Mais il y a à côté de lui sa copine, si j'ose dire. Voilà. Et oui, qu'est-ce que vous auriez à dire au niveau technique, au niveau... Quel jour on avait vu justement pour... qu'est-ce qu'il avait fait, la nature se dévoilant à la science?
Barias,
ouais. Et on avait dit quoi, justement, sur cette œuvre de Barias? Où il y avait, vous avez du lapis-lazuli, de la malachite.
C'est vraiment de la dextérité de l'art.
Voilà, c'est ça. Une espèce de... C'est un brio extraordinaire, parce que... Alors là, c'est peut-être un peu moins que Barias, mais enfin, quand même. Hein. Il y a des matériaux qui sont des matériaux chers, hein, des globes de Nix comme ça, des matériaux chers, qu'il faut quand même travailler, traiter. Il y a donc un côté virtuose, si vous voulez, en plus. Ça aussi, c'est l'éclectisme. Vous voyez, l'éclectisme, ça aime... C'est ce que je disais, c'est du champagne. Hein. On va pas avoir un bloc de marbre tout court. Bon, mais on y met les moyens, notamment techniques. Hein. Donc là, il faut en plus incruster la tête en bronze. Avec... Pouh, c'est compliqué quand même. Hein. Donc il y a un brio technique. Une idée de l'auteur? Non?
C'est pas le même, hein. C'est pas marrant.
Quoi. Non, c'est pas le même. Il s'appelle Cordier. Il s'appelle Cordier, et c'est quelqu'un qui s'est un peu spécialisé à la fois dans ce genre de sculpture polychrome, mais également qui s'est beaucoup intéressé, on va dire, à l'Orient, au sens large du terme. Hein, un Orient qui va de l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, en passant par le Proche-Orient. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'ailleurs, en tout cas à des ailleurs exotiques. Hein. Ça, Cordier, voilà, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à ça. On regarde le suivant.
Saint Jean-Baptiste enfant,
effectivement. Une statue en quelle matière?
Bronze,
absolument. Mais encore. Qu'est-ce qu'on aurait à dire sur ce Saint Jean-Baptiste enfant en bronze?
Il y a du mouvement.
Dans la chevelure.
Oui, notamment dans la chevelure, effectivement. On a l'impression d'être dans le vent du désert.
Presque
moderne. Oui.
C'est comme une position là, contre apostole.
Oui. Ah oui. Oui. Oui, ce que vous soulignez là, c'est qu'il y a une position, ce qu'on appelle le contrapposto, hein, c'est-à-dire voilà, une sorte d'équilibre de la pose, hein, et qui fait penser à quoi ce contrapposto?
David.
Voilà. Donc, Michel-Ange, par exemple, hein, absolument. Donc, quand vous voyez ça, vous voyez un artiste qui, effectivement, propose un Saint-Jean-Baptiste. Vous disiez deux choses qui peuvent paraître contradictoires et qui ne sont pas. Vous disiez d'un côté, ah, oh, c'est un côté très moderne. Et quelque part, c'est vrai, très moderne. Moderne, c'est tout et rien, c'est joli, mais c'est vrai qu'il y a une dimension très moderne. Ça pourrait être une sculpture des années 30, par exemple. Hein, vous voyez, bon. Et c'est bien une sculpture du 19e. Hein. Donc il y a un côté, une espèce de côté innovant. Et en même temps, vous parlez contrapposto et de Michel-Ange, c'est-à-dire un côté très classique en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans le modernisme. Hein. C'est une sculpture qui annonce ce qui se passe après et qui pourtant s'inspire de ce qu'il y a avant. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc c'est intéressant parce qu'on a un artiste qui est à la fois dans la tradition et dans la modernité, si vous voulez. Vous voyez? Vous en connaissez d'autres comme ça? Non. Des artistes qui à la fois sont dans la lignée des grands anciens et qui, pourtant, font des choses très, entre guillemets, modernes.
Même Rodin.
Ben voilà, par exemple. Hein. Rodin, par exemple, c'est le cas. Et alors, de manière voilà, très vive. Hein. Parce qu'effectivement, Rodin, personne ne va dire qu'il n'est pas moderne, entre guillemets. Hein. Voilà. Et en même temps, Rodin, c'est Michel-Ange. Hein. Rodin, c'est Michel-Ange. Il le revendique. Rodin, il va au Louvre, il copie des esclaves. Voilà, Rodin, ce qui l'intéresse, c'est Michel-Ange. Hein. Vous savez, les sculptures de Michel-Ange, Michel-Ange a simplement taillé quelques trucs et laissé le bloc de marbre brut. Ça passionne Rodin, par exemple. Hein. Donc Rodin, il reprend absolument Michel-Ange, et pourtant, ce qu'il fait, ben, c'est clair, c'est pas du XVIe siècle. Hein. Donc là, on a, avec un artiste qui est moins immense que Rodin, si vous voulez, hein, mais on a un peu quelque chose d'équivalent. Donc un artiste qui s'intéresse et qui regarde du côté de la sculpture ancienne, mais qui à partir de ça fait du moderne. Bien. Une idée d'un nom?
De quelle taille
à votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez, quoi?
Pas très grand.
Alors il est, disons que c'est une pièce qui fait qui est à peu près grandeur nature, enfin grandeur nature par rapport à l'enfant qui est représenté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait quoi, un mètre? Ouais, 1,50 m, quoi, peut-être. Ça, à peu près. Hein. C'est dans la grande nef d'Orsay aussi, d'ailleurs. Ceux qui parmi vous ont suivi la conférence que j'ai eu l'occasion de faire sur Camille Claudel m'ont entendu parler de ce sculpteur-là. Ça vous dit quelque chose, non? Paul Dubois. Vous savez, c'est un artiste de Nogent-sur-Seine, oui. Là où justement Camille Claudel a passé, etc. Et vous savez que Dubois a été un des maîtres, entre guillemets, de Camille Claudel, justement. Oui. Et Dubois, je vous avais montré de lui une statue qui représente un jeune Florentin en train de jouer de la
mandoline.
Oui, de la mandoline. Voilà. J'allais dire de la guitare, de ouais. La mandoline. Ouais. Voilà, donc Dubois est vraiment quelqu'un qui s'inspire beaucoup du Quattrocento, notamment, du 15e siècle italien. Et vous avez bien vu que c'était le cas. Hein. Vous avez bien vu que là, on était évidemment dans une œuvre moderne, mais une œuvre qui en même temps s'inspirait de l'ancien, pourrait-on dire. Hein. Très bien.
Un buste.
Du marbre.
Ça voit mal, hein.
Ouais, c'est très aplati, hein, c'est. Ouais, c'est embêtant, mais bon, je ne peux pas faire grand chose. Bon, vous mettez tous là.
Il y a un effet grec avec la coiffure.
Ouais, un effet grec, ouais. En tout cas, antiquisant, oui. Oui.
Le drapé aussi.
Drapé aussi, oui. Mais c'est toujours ce que vous avez déjà pointé, c'est-à-dire, effectivement, il y a des réminiscences antiques, mais qui sont vues quand même d'une toute autre manière que ce qu'on avait vu à l'époque néoclassique. Et romantiques aussi, mais les romantiques ne sont pas des gens qui se branchent d'abord sur l'antiquité. Hein. Les néoclassiques, oui. Donc, quand vous voyez ça, je pense que d'emblée, vous n'auriez pas mis ça au début du 19e. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Si. Quoique. Quoique. Je crois qu'au début du 19e, on aurait une rectitude antique beaucoup plus, j'allais dire, orthodoxe. Hein. Parce que là, vous parlez du drapé, vous parlez de la coiffure. Vous connaissez des sculptures antiques avec des coiffures comme ça ?
Non.
Pas trop.
Une
hein.
espèce de bouillonnet sur les épaules. Là,
voilà, ce genre de choses aussi. Ce côté un peu froufrou, si vous voulez. Hein. Vous voyez ce froufroutage, ces petites choses-là, une espèce de coiffe bizarre.
Ouais.
Voilà des choses qui sont... voilà, qui appartiennent, qui ne sont pas une reprise de l'Antiquité que l'on remet un peu au bout du jour. C'est vraiment quelque chose qui s'en inspire, certes, ne serait-ce que dans le matériau, mais qui pousse les choses beaucoup plus loin, une sorte de baroque antiquisant, si vous voulez.
Une commande, non ?
Une commande, peut-être.
Oh, c'est peut-être quelqu'un.
Donc ce serait quelqu'un.
Je ne sais pas, peut-être.
Si c'est, alors, soit c'est quelqu'un, soit c'est le buste de quelqu'un, donc peut-être une commande, effectivement. En gros, faites-moi mon buste et hop, on fait ce buste-là. Si c'est pas ça, ça peut être quoi ?
Une allégorie.
Une allégorie, autre possibilité. Fait. Et si c'est pas une allégorie, et si c'est pas le portrait de Madame Bidule qui a voulu présenter, qui a voulu faire son portrait par un sculpteur, c'est quoi la troisième solution ?
Personnage de théâtre ou historique imaginé par le sculpteur.
Voilà, ça peut effectivement être alors soit un personnage, vous avez même dit deux choses là, soit un personnage théâtral, Mademoiselle Truc Chouette dans le rôle de je ne sais pas qui, non, soit un personnage historique, effectivement. Hein. La personne historique de quelle époque ?
L'Antiquité.
L'Antiquité ? Ce sera un personnage de l'Antiquité représenté ?
Bah,
18e, 19e. Un personnage du 19e représenté au 19e ?
Non, du
18e.
Non.
Du
18e ? Non.
On peut gagner. Je trouve que la coiffure et les froufrous dont on parlait tout à l'heure suggèrent vraiment une époque. Hein.
La Renaissance.
Oui, le bijou sur le front, etc. De Poitiers. Pensez au portrait d'Anne de Poitiers, par exemple.
Ah, oui,
vous avez là quelque chose qui est vraiment complètement né Renaissance. Hein. On a donc effectivement la représentation d'une femme de la Renaissance au 19e siècle. Donc ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas un portrait de Madame X ou Y contemporaine, c'est un portrait historiciste, si vous voulez, fait à la manière de... Donc voilà un sculpteur qui fait un portrait d'une femme de la Renaissance à la manière de la Renaissance, mais en y ajoutant, presque de côté peps, qu'autorise l'éclectisme. Et le sculpteur, c'est qui ?
Il est connu, alors.
De vous. La preuve.
Et Bourguignon ?
Non. Pardon ?
C'est une femme qui le fait.
Ah oui.
Marcello.
Marcello. Vous savez, rappelez-vous cette sculptrice que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans un cours à l'UTB, hein, qui est vraiment une des grandes sculptrices du 19e. Hein. Elle, c'est elle qui a fait, typique, hein, la fameuse Pity, qui est à l'Opéra de Paris, hein, sous l'escalier principal. Vous rappelez, hein, Marcello. Et dont je vous avais montré à quel point... C'était très intéressant. Et alors, elle est vraiment au cœur de l'éclectisme. Elle est au cœur du bâtiment le plus éclectique, l'Opéra Garnier. Hein. Et je vous avais montré comment cette pitié, qui est une œuvre extraordinaire, le Marcello, hein, est donc présentée sous le grand escalier de l'Opéra, à l'endroit où s'arrêtent les fiacres et où les gens descendent. Quand on les livre à l'Opéra, ils descendent, pouf, devant Marcello, et hop, après, ils montent dans la salle. Quoi. Vraiment, si c'est pas une sculptrice éclectique, voilà... Alors, elle est suisse, hein. Mais bon, elle a fait toute sa carrière en France, une grande partie du moins, et c'est vraiment une sculptrice tout à fait passionnante. Bien. On continue.
On revient plutôt vers le réalisme.
Oui, on revient plutôt vers le réalisme. La photo est détestable, hein. Je suis désolé. C'est complètement aplati. Ce qui est une culture exquise, mais bon. Donc on revient, je suis d'accord avec vous, vers quelque chose de plutôt réaliste. Ça représente quoi ?
Un
enfant, un jeune garçon et son chien. Voilà. Bien. Alors, c'est dans quel... oui, en marbre blanc, tout à fait. C'est à peu près grand domaine, tu vous sais, c'est à peu près comme notre Saint-Jean-Baptiste tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça peut être que ça ? Quelles sont les possibilités quand vous voyez ça ? Vous dites, c'est quoi ? Parce qu'un garçon avec son chien, d'accord ?
C'est un portrait.
Alors, c'est un portrait. C'est donc un portrait d'un vrai garçon de l'époque. Mm-hmm. Hein, c'est ça que vous voyez. Okay ? D'ailleurs, vous voyez que le costume, alors, ce qu'on en voit du moins, parce que semble bien être un costume du temps, effectivement. Hein ? Ok. Vous avez une idée du modèle ?
De Napoléon III.
Pardon ?
C'est le fils de Napoléon
III. C'est le fils de Napoléon III. Celui qu'on appelle le prince impérial.
Celui qui s'est fait tuer par les
Zoulous en Afrique du Sud. Mais là, il est représenté avec son chien, qui s'appelle Nero d'ailleurs. Voilà, et donc c'est le fils de l'empereur. Une idée de l'auteur.
Sculpteur
très en cours, que vous connaissez, que vous reconnaissez, que vous reconnaissez encore. Oh oui, vous ne connaissez que lui. Parce qu'il s'agit de... Voilà. Ce qui vous montre d'ailleurs l'ambiguïté de la... Enfin, l'ambiguïté. L'ambiguïté de la période où la... le côté relatif de nos cases. Hein. Parce que vous avez dit avec raison qu'on est là devant une sculpture réaliste. C'est vrai, ça représente le fils de l'empereur, c'est un portrait, avec son chien. C'est donc une sculpture très réaliste. En étant Carpo est plutôt un artiste qui signale justement par son côté éclectique. Hein. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'on donne l'éclectisme, on donne pas le réalisme et vice-versa. Et puis après tout, on pourrait dire aussi que dans cette sculpture réaliste, il y a une dimension un peu... Encore une fois, champagne, c'est l'éclectisme que je disais. Hein. Là, Capot, il a utilisé le marbre, par exemple. Voilà. Alors, cela dit, on connaît plein d'autres exemples hein, de cette sculpture-là. Il y en a des exemples en tête, etc. Hein. Mais tout ça pour dire que nos cases, elles sont pratiques. Hein, elles permettent de schématiser un peu les choses. Hein. C'est quand même bien, bien utile. Hein. Mais voilà, il y a des perméabilités. Bien. Ça aussi, c'est dans la grande nef d'Orsay. Bravo, bravo.
Alésia.
Nous sommes à Alésia, c'est Versailles et Torix. Bien. Pourquoi ?
Parce que c'est des gens. C'était l'époque où on faisait des recherches archéologiques sur la question.
Absolument. Napoléon III finance des recherches archéologiques sur le Mont aux Soies, et sous le Mont aux Soies aussi d'ailleurs. Et donc, voilà, il fait ériger, effectivement, une statue figurant vers Saint-Eurix, là. Très bien. Alors, cette statue, vous diriez quoi ? Vous la caractériseriez comment ?
C'est l'image qu'on se fait d'un chef gaulois célèbre en deuxième partie du 19e.
Mm-hmm. Et puis même au début du 20e, hein.
Oui, jusqu'en 14, on va dire. Quoi.
Et
voilà.
Même dans Astérix et Obélix.
Oui, on pourrait peut-être. On pourrait trouver comme ça, je suis d'accord avec vous. Oui. Il y a des poncifs, quoi.
C'est vrai. On se fabrique l'histoire nationale.
Voilà, c'est une réécriture de l'histoire nationale, absolument. Hein. Jusque-là, les Gaulois, si vous voulez, oui, ils sont plus. Hein. Prenez le 18e siècle en France, les Gaulois, oui, enfin, il y a. On pourrait d'ailleurs en parler, hein, il y a quand même des choses, mais voilà, on ne peut pas dire que... Et encore, les Gaulois qu'on met en avant au XVIIIe sont des Gaulois très romanisés, vous voyez, hein, oui. Présente Éponine et Sabinus, enfin, des choses comme ça, mais le Gaulois de chez Gaulois, si vous voulez, celui-là, non, celui avec les grosses moustaches et les grands cheveux, et qui regarde l'horizon et qui a peur que le ciel lui tombe sur la tête, c'est pas le truc du XVIIIe. Hein. C'est donc au XIXe que ça se fait. Et effectivement, les fouilles du Mont aux Soies sont quelque chose qui incarne bien cette volonté-là. Hein. Et qu'est-ce qui montre justement cette volonté de retrouver ce passé national ?
C'est son allure.
Ouais. Oui, il y a... Voilà, parce que ce Gaulois, il est un Gaulois, mais c'est un Gaulois qui est bien l'ancêtre des Français, hein, qui sauront évidemment se défendre face à des envahisseurs. Hein. Donc il y a une fierté gauloise, sous-entendu une fierté française, une fierté nationale. Donc l'histoire sert à ça. Hein.
La statue est d'avant 70 ou pas après ?
Ça, on va voir. À votre avis ?
Moi, je dirais après.
Après ? Après la défaite, alors.
Ouais.
Ok.
Pour redonner du
peps.
Pour redonner du peps, parce que, après tout ce qui s'est passé, il faut un peu booster le truc. Ok. Ah, ben on va voir. Et oui, qu'est-ce qui témoigne dans cette statue ? Alors, vous avez bien vu la dimension de fierté nationale vénérable qui vient des tréfonds de l'histoire française, donc gauloise. Hein, voilà. Donc, une manière de parler du présent en faisant intervenir le passé. Et de quelle manière on le fait intervenir le passé dans une sculpture comme celle-là ?
Les vêtements,
les attributs, effectivement. Hein. Effectivement,
la moustache.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des éléments, vous avez bien résumé, des éléments, j'allais dire, tangibles. Alors, les vêtements, oui. Le problème, c'est que. Quelle est la différence, par exemple, entre les vêtements et les objets ? Entre l'épée, par exemple, et les bras.
Les vêtements sont très travaillés.
Oui. Mais mettez-vous à la place du sculpteur qui a fait ça. Donc vous avez mis le nom tout à l'heure. Après tout, c'est en Bourgogne. Vous connaissez tous le nom de cet artiste, on est d'accord. Quel est le... Mettez-vous à sa place. On vous commande vers Vercingétorix.
On sait bien comment sont les armes, mais on ne sait pas trop comment sont les...
Et pourquoi ?
Parce qu'on ne retrouve pas grand-chose.
Et ben voilà. Allez retrouver des vêtements gaulois, c'est quand même compliqué. Hein. Par contre, des objets gaulois, bon. Voilà. Alors ça dit, il y a quand même des solutions pour trouver ça. Par exemple, comment est-ce qu'on peut faire ?
En relisant César.
Alors voilà, il y a des lectures. César, par exemple, des vélos gallicaux, la guerre des Gaules, ouais. Il y a quoi d'autre aussi éventuellement ? Voilà, oui, c'est ça, les sculptures, l'iconographie, il y a quand même l'iconographie antique. Hein. Mais enfin, elle a ses limites, et l'iconographie antique représente des Gaulois comme les Romains les voyaient, ou les Gaulois comme les Gallo-Romains les voyaient. Bon, voilà. Ce qui fait que la sculpture que vous avez là, comme vous dites, autant il y a des éléments tangibles qu'on peut retrouver dans les fouilles archéologiques, l'épée, etc. Et puis, il y a des éléments un petit peu plus compliqués, hein, c'est le cas des vêtements. C'est ainsi qu'on a pu remarquer, par exemple, que les breaks à un personnage, à vrai dire, correspondent sans doute plutôt à ce genre d'accoutrement, si j'ose dire, mais à l'époque mérovingienne. Hein. En fait, il y a eu des études faites sur l'œuvre de Millet, et on peut dire que quoi, 10% des éléments sont gaulois compatibles, tout le reste est plutôt soit plus ancien, soit plus tardif. Hein. Par exemple, l'épée est plutôt une épée de l'âge du bronze, c'est-à-dire avant les Gaulois. Hein. Les brèches, je vous le disais, sont plutôt méros. Voilà. Donc, voilà. Mais évidemment, les études archéologiques n'en sont pas là où elles sont aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est assez marrant de voir qu'une œuvre comme ça, qui, sur le gauloise, est montrée fierté nationale à travers le passé, quelque chose qui n'est pas si vrai que cela sur le plan archéologique. Ok ? Cette sculpture qui est très grande, vous la connaissez, parce que vous prenez le train comme tout le monde, et que voilà, vous êtes allé à Lézia, bien sûr. Qui est-ce qui l'a faite ? Un sculpteur qui a le même nom qu'un peintre.
Millet.
Voilà. Bravo. Bravo. Aimé Millet. Bravo.
Vous l'avez dit,
C'est pas vrai.
Si, vous l'avez dit.
Oh, ben je me suis jamais
pas.
Bon. Mais j'ai pas fait lire. Bon, d'accord. Ok, très bien. Bon, écoutez, c'est la prochaine fois. Aimé Millet. Bon, voilà. Voilà. Bon, au moins, comme ça, tout le monde s'en rappellera. Voilà. Aimé Millet, hein, qui est effectivement l'auteur de cette sculpture-là. Bien. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe ?
On a été
Pardon ?
Aîné
avec son père. Oui, l'histoire d'Aîné et d'Anquise. Hein. C'est le moment où Aîné quitte Troie et où il va, parce que son père est âgé, etc., il ne peut pas trop bouger, hein, il va prendre sur son dos pour fuir la ville de Troie en flammes et en sac. Quel problème. Donc ce serait Aîné qui quitte Troie avec son père.
Non.
Tout le monde est OK avec ça ?
Non. Vous avez montré un truc qui ressemble à ça. Il y a l'autre fois, il n'y a pas longtemps, la dernière fois, où il y avait deux hommes comme ça.
Oui.
Alors, avec des noms...
Ah oui, la fois dernière.
Oui.
Oui, je ne me rappelle même plus des noms, d'ailleurs. Mais un combat entre deux... Enfin, pas un combat, mais deux héros antiques qui étaient crucifiés l'un avec l'autre.
Voilà.
Ouais. Vous trouvez que ça ressemble à ça?
On voit des chaînes.
On voit, il y a quand même des chaînes.
Et puis en haut à gauche, là, il est,
ouais.
On dirait qu'il est accroché.
Eh oui, regardez, en haut à gauche.
Ouais.
On dirait qu'il est accroché.
Ouais.
Et puis on voit des chaînes, puis on voit autre chose.
Dans le pied, oui. Il a été crucifié.
Exactement.
Ouais.
Regardez, au niveau du pied.
Ouais.
Il y a un clou dans le pied.
C'est un corps.
Donc, spécial. Donc c'est avec lequel qui est attaché. Donc l'idée qui était bonne, hein, d'Anquise, Aîné et d'Anquise, ah, ça ne peut pas être trop ça, parce qu'Anquise, il serait un peu accroché, quoi.
Il serait plus vieux que ça.
Oui, puis il serait peut-être plus vieux. Là, il est un petit peu... Notre aîné, entre guillemets, est un peu jeune. Hein. Donc c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être ?
Un des deux larrons.
Un quoi ?
Un des deux larrons.
Un des deux larrons. Donc on a un des larrons, et alors le gosse, c'est quoi ? Parce que c'est un jeune homme. Hein. Ce serait qui l'enfant ? Un des fils du larron ?
Non.
Fils du larron, quoi ? Ah oui, il y a le nom.
Il y a le nom ?
Oui.
Juste alors. De loin, vous avez du mal à le voir. Déjà près, on ne voit plus. Bon, sans savoir de qui il s'agit, ni ce qui est présenté, ni l'auteur, à votre avis, la scène représente quoi ? Il y a effectivement un personnage d'un certain âge, attaché, crucifié, et puis un jeune garçon qui vient vers lui. Qu'est-ce qui se passe entre eux ?
Cherchons dans les crucifiés célèbres.
Ouais.
Ça fait penser au monde des Oliviers, quand même.
Oui, mais on a vu que, bon, ça, a priori, c'est pas le Christ, quand même. Hein. Et un des larrons, l'idée a été émise hein, d'un des larrons, mais ce que vous voyez dans l'Évangile, un épisode avec un des larrons et un enfant qui vient, je crois pas. Hein.
Je pense à Spartacus, mais
Spartacus, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah oui, il a été crucifié.
Celui qui a mené la révolte des esclaves, qui a finalement été vaincu, et ils ont tous été crucifiés, puisque c'était un mode d'exécution courant dans l'Empire romain.
Vous avez raison. La crucifixion, si le Christ a été crucifié, c'était pas voilà, c'est ça. Cherchez le mot, merci. C'était vraiment un traitement habituel, quoi. Hein. Réservé aux étrangers, hein, enfin ceux qui ne sont pas romains. Notamment. Donc, absolument, c'était habituel, on crucifiait, il n'y a pas de Christ qui a été crucifié. Donc, effectivement, et vous avez raison, c'est quelque chose qui est lié à Spartacus, simplement.
Mais je comprends, n'explique pas
l'enfant.
Alors, vous avez une idée par rapport à ça ou pas ?
Non.
Donc, on aurait Spartacus crucifié.
Lui ou un autre, puisqu'ils ont été des milliers à être crucifiés à l'occasion de cette révolte.
C'est le fils du
crucifié. Mais l'enfant, c'est
lui. Pardon ?
C'est l'enfant du crucifié qui vient récupérer le corps de son père.
Peut-être. Ça peut être ça. En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette sculpture s'appelle le sermon de Spartacus. C'est-à-dire que Spartacus vient... écouter les derniers instants de cet homme qui est en train de mourir et fait le serment de le venger. En fait, Spartacus, c'est le jeune, pas le vieux. Et parce que d'ailleurs, alors en fait, on ne sait rien hein, de l'enfance d'Artacus, mais il y a quand même une légende un peu tenace qui dit que Spartacus était devenu celui, vous savez, c'est-à-dire que c'est un esclave jouant dans le cirque, hein, qui s'est dressé contre la puissance romaine. Hein, et la légende veut qu'il ait fait ça, effectivement, parce qu'il a recueilli, enfin, il a vu l'injustice, si vous voulez, qu'il y avait, et que, ayant recueilli les derniers moment d'un homme qui avait été plus ou moins son mentor, etc., et qui avait été crucifié, enfin tué, il a essayé de le venger, c'est le cerveau de Spartacus. Ok ? Et cette œuvre-là, alors là aussi, il est d'un sculpteur que vous connaissez bien, dont on a parlé plusieurs fois, encore aujourd'hui d'ailleurs.
Carpeaux.
Non. Non, parce qu'il n'y a qu'une œuvre d'un, il n'y a qu'une œuvre par artiste là dans le diaporama.
Non, on a eu d'autres carpeaux.
On a eu deux carpeaux.
Ah oui, non, mais le chef-d'œuvre au départ. Oui. Ça, c'est normal. Oui. C'est comme la dernière fois, à vous rappeler le préau, le silence. Hein. C'était le chef-d'œuvre, et après, dans le diaporama, on en a vu un autre. Donc, ça, c'est normal. Hein. Le chef-d'œuvre, c'est le chef-d'œuvre. En fait, dans le diaporama, il y a une œuvre par artiste. Donc là, c'est un sculpteur dont on a parlé, mais dont on n'a pas vu d'œuvre encore. Si je vous dis que c'est celui qui a fait la nature qui s'éveille à la science,
ben
voilà, Darius, voilà, ok, le serment de Spartacus, c'est dans le jardin des Tuileries, voilà. Alors on change un peu de répertoire. Oui, pour être éclectique, ça l'est, hein. Alors. Voilà, c'est pas trop mignon ça? Voilà. Alors vous diriez quoi de tout ça? 11. Oui, vous disiez? Alors là, vraiment, on est l'oreille, sinon on n'est plus avec le cerveau de Spartacus. Hein. Voilà, on est dans Raïs. Ça vous rappelle qui d'ailleurs, peut-être? Ça vous rappelle Paris, hein, avec peut-être quelque chose en moins.
La en plus, voilà. Moins de vigueur.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas l'espèce d'élan romantique avec des animaux qui se zigouillent tous. Enfin, voilà. Ouais. Hein, vous rappelez du serpent, de l'alligator.
Ouais, du lion.
Oui, vous vous rappelez, avec Barry, ils sont tous en train de bouffer, quoi. Là, on est dans quelque chose de plus, voilà. Hein. Donc ça, c'est un autre artiste animalier très, très important du 19e. Vous le connaissez peut-être, non? Qui s'appelle Maine. Voilà. Jules Maine. Voilà.
Et c'est grand comment?
C'est petit. Alors, c'est intéressant, ça, effectivement. Vous faites bien de le dire. C'est petit. Hein.
C'est la petite sur la cheminée.
Voilà, exactement. Hein. C'est donc la petite. C'est important ce que vous dites parce que c'est donc pas, vous voyez, Jean de Maine, c'est quelqu'un. Alors, il a fait des grands trucs aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la petite statuaire. C'était des gens, notamment ces artistes, qui travaillaient pour que chacun ait sa statue, si vous voulez. Hein. Ça, c'est des choses qu'on pouvait acheter. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais pour avoir ça chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? Des petites pièces. Elles peuvent être en régule, elles peuvent être en bronze. Quelquefois, il y en a en plâtre. Enfin, voilà. C'est fait en série. Et ça permet à tout un chacun d'avoir une sculpture sur sa cheminée, effectivement. Hein. Voilà. C'est chouette.
Une jeune femme assise.
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle coud bien. Elle brode. Elle s'appelle la brodeuse. Pardon?
La matière.
Oui, c'est en quoi?
Plâtre.
Enfin, oui, un plâtre patiné. Ouais. Ok. Et alors là, qu'est-ce que vous auriez à dire de cette œuvre-là? Oui.
C'est petit,
oui. L'auteur qui en a fait, je vais essayer de ne pas dire son nom, mais l'auteur a fait ça quelquefois, a pu faire des pièces plus grandes. Mais en l'occurrence, ça, c'est une pièce petite. C'est un peu comme Maine, juste avant. Hein. C'est quelqu'un là qui peut produire ce genre de pièces pour que vous et moi, on ait ça sur notre cheminée. Hein, voilà. Il y a aussi cette volonté chez les réalistes. Hein. Les réalistes, c'est aussi des gens qui ont envie de diffuser l'art à tout le monde. Hein. Ils présentent des sujets réalistes, et en même temps, ils ont envie que l'art soit diffusé. Donc leur objet, ce n'est pas de faire toujours des marbres de 15 mètres de haut qui coûtent des prix incroyables, c'est aussi de diffuser l'art dans le public. Donc on fait des petites choses comme ça. Ça, c'est un plâtre original, mais qui a pu donner naissance derrière à des tirages en plâtre, des tirages en bronze, etc. Alors ça vous suggère quoi d'autre? Donc on a vu que c'était plutôt du grand réaliste. Qu'est-ce que ça vous inspire d'autre, ça?
C'est très paisible.
Pardon ?
C'est très paisible.
Très paisible.
La vie quotidienne.
Vie quotidienne.
L'œuvre d'une femme.
Pardon ?
L'œuvre d'une femme, d'une sculptrice.
Ah, ce serait une sculptrice ? Why not ?
Je ne pense pas qu'un homme s'intéresse à ce sujet à l'époque.
Ah, on va voir.
Mais bon.
Mais c'est intéressant votre réflexion, effectivement. Donc, on est là devant une sculpture qui est peut-être une sculpture de femme, représentant une besogne de femme. Une petite pièce qui montre une scène de vie quotidienne. Hein. Bon. Et pas justement par rapport au courant réaliste, ça vous permet de penser à Graillon, qu'on a vu tout à l'heure. Rappelez-vous de Graillon. Hein. Là, vous allez vous rappeler de Graillon. Je ne sais pas la différence entre Graillon, vous avez dit tout est réaliste, etc. Ça, ça l'est tout autant. La différence, c'est quoi?
Une élégance.
Et... Ouais.
C'est pas le même statut social.
Oui. Une sérénité. Oui. Ouais. Ouais.
Comment c'est donc, elle a des membres inférieurs, bien trop grands par rapport
à... Ah oui, les artistes sont, vous savez, les artistes sont terribles, ils font jamais faute. Même s'ils sont réalistes, hein, ils peuvent quelquefois travailler des choses d'une manière qui ne l'est pas. Absolument. Elle a effectivement, on a l'impression qu'elle a un bas du corps énorme pour un buste beaucoup plus réduit. C'est très curieux. Donc ça, les artistes fussent-ils réalistes,
hein, oui, mais les pieds vont pas jusqu'en bas. On dirait qu'elle a sur un repos.
Ah, il y a une petite chaufferette.
Voilà, quelque chose pour nous relever les pieds.
Ah oui, il y a peut-être une petite...
Oui.
Elle
a tombé à la renverse.
Non, il y a un dossier.
Et donc, la différence par rapport à Graillon tout à l'heure, donc vous avez dit, oui, c'est plus gracieux, c'est plus charmant, c'est plus... OK. Et ça veut dire quoi par rapport à cette sculpture réaliste, hein?
Plus décoratif.
Plus décoratif, oui.
Il y a un soin particulier apporté au visage.
Oui, effectivement, oui. Oui, par rapport au reste, qui est plus abusif. Oui. Ouais. Ouais.
Là, on est concentré sur un seul sujet.
Oui.
Tandis que ce qu'on a vu de Graillon, c'était la bourgeoisie face au peuple.
Mm-hmm.
Tandis que là, c'est le calme, c'est le... ce qui est agréable qui ressort. On a du plaisir à
l'avoir. Oui, je crois que vous dites bien effectivement ce que j'avais en tête, c'est-à-dire que... il ne faut pas voir que la sculpture réaliste, c'est forcément que des scènes un peu misérabilistes. Vous voyez, ouais. Très souvent, on a tendance à dire le réalisme, c'est un bonhomme qui tient un marteau et puis une femme en train de faire la manche. Voilà. Ça, c'est la sculpture réaliste. Il y a ça. Mais il y a aussi, tu es réaliste, j'allais dire, sinon chic, du moins bourgeoise. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, on a une femme qui brode. Elle n'est pas dehors sous la neige en train de mourir. Elle n'est pas avec un marteau dans une forge. Elle est là chez elle. Elle coud, elle brode. Donc la sculpture réaliste, c'est ça aussi. Vous voyez, c'est pas forcément Zola, si vous voulez. C'est pas forcément Germinal. Voilà. Et l'artiste, on avait vu de lui, pendant la première séance, justement, un paysan qui a troussé ses manches.
Oui.
Rappelez-lui. Ah,
oui.
Comment il s'appelle? Il s'appelle Dalou. Et là.
Un cheval.
Un cheval. Pardon? Non, c'est un cheval.
C'est un cheval.
Ouais. Oui, qui se carre un peu, quoi. Il se carre. Un cheval qui se carre. Donc on est dans de la sculpture réaliste. Hein, c'est pas éclectique, ça.
En bronze. Pas très grand.
C'est pas très grand, effectivement.
C'est un peu grossier.
Pardon ?
C'est un peu grossier.
Oui, c'est un peu. En tout cas, c'est pas une sculpture lissée, etc. C'est une sculpture matériologique. Ça vient de quoi, notamment ? Parce qu'avant le bronze, il y avait... plus plat. Et il y avait, ouais, alors on a moulé, et on a moulé quoi ?
Un
plâtre. Ou bien
de la cire.
Alors, de la cire ou de la terre, effectivement. Hein. La sculpture première a été faite soit en plâtre, soit en cire, soit en terre. Hein. Donc on a un peu le reste de cette matière première. Là, vous voyez. Manifestement, l'artiste n'a pas voulu peaufiner son truc. C'est pas un néoclassique. Hein. Il n'a pas voulu faire un truc tout lisse, bien parfait, etc. Voilà, il a voulu qu'il y ait un peu de, comme ça, de matière, quoi, pour que ça suggère peut-être le mouvement, etc. Qu'est-ce qui avait ça ?
C'est un qui connaissait pas l'anatomie des chevaux.
Vous croyez ? Alors, c'est toujours un peu la même chose, et vous avez raison, hein. Toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que les artistes, ils ont beau représenter la réalité, quelquefois, ils la transcendent, ou ils la modifient. Ça, c'est le problème. Pardon ?
C'est comme la brodeuse d'avant qui avait des grandes jambes.
Par exemple.
Oui, mais il y a peut-être l'idée que c'est une volonté aussi, parce qu'il y a une épuration aussi qui se fait.
Voilà, absolument, exactement. C'est une volonté.
Qui ne connaît pas l'anatomie,
c'est pas... Absolument, alors vous avez raison, c'est là-dessus, c'est pas une maladresse de la part, surtout pas de cet artiste-là. Hein. C'est vraiment une volonté de faire comme ça. Ça, vous avez raison de le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas là, tout comme l'œuvre précédente, hein, on n'est pas là devant des... Alors, on est chez des réalistes, mais qui modifient la réalité, mais pas parce qu'ils ne sont pas capables de la représenter, mais parce que ça ne les intéresse pas de faire trop réel non plus. Hein. Donc, ils modifient, et en pleine conscience, ils assument cette modification. D'autant que l'artiste qui a fait ça a fait beaucoup de sculptures représentant des chevaux, et beaucoup d'autres choses représentant des chevaux.
C'est Degas.
C'est une œuvre de Degas. Et Degas a fait des chevaux en long, en large et en travers. Il en a fait des tonnes. Hein. Voilà. Notamment beaucoup de sculptures représentant des chevaux. C'est Degas. Donc c'est vraiment parce que c'est vraiment une sculpture impressionniste. Oui. Des sculptures impressionnistes, hein, pas dans ça. Hein. Oui. Vous voyez, vous vous rappelez l'expression des impressionnistes quand on avait parlé en parlant d'impression soleil levant il y a quelques mois. Hein, vous rappelez que l'expression de l'évangile, il y avait un sculpteur, Autain, qui n'est pas très impressionniste. Là, on a bien un des rares cas d'un sculpteur qui est un sculpteur impressionniste. C'est là, justement, vous parliez tout à l'heure de ce côté non fini, la matière visible. Ça correspond vraiment à cette idée-là. Voilà, pardon. Une belle dame élégante. Ça s'appelle une parisienne.
Oui.
Alors, vous auriez à dire quoi ?
La fin du 19e.
Ouais.
Avec
pardon ?
Ça pourrait être une comédienne ou...
Oui. Oui.
C'est l'éclectisme, là.
Éclectique ? Ouais. Vous trouvez ça ? Éclectique ?
Je sais pas, parce qu'elle a des fleurs partout.
Bon, ben, elle a trois fleurs dans les cheveux, puis elle a un petit bouquet de fleurs. Comme toutes les parisiennes. Allez à Paris aujourd'hui, vous verrez ça plein les
hauts. C'est hippie.
C'est le flower power.
C'est quand même une idée de l'élégance parisienne.
Ah oui, c'est l'idée également, bah, celle qui est valorisée à cette période, quoi. Hein. Voilà. Donc plutôt que, alors c'est vrai qu'il y a quelques fleurs, hein, mais on n'est pas non plus dans la vous vous rappelez dans la Vestale de tout à l'heure, hein, avec les seins dressés, avec le voile tombant sur le visage, avec les couronnes de fleurs sur la tête. Là, il y a quelques fleurs qui, j'allais dire, agrémentent la coiffe, et puis elle porte quelques fleurs à la main. C'est plus une sculpture réaliste, simplement. Donc, enfin, le réalisme, c'est pas que des ouvriers en train de bosser sur leur truc. C'est aussi des Parisiennes qui sont dans les rues, qui font le succès de la ville au 19e. Hein. On vient à Paris pour voir ça.
Quelle est la taille ?
Grandeur nature. Donc, c'est pas une petite pièce. Hein. Chatrousse. Ouais, ça fait penser à ça. Hein.
C'est la retraite, là.
Ouais.
La retraite,
le mouvement, là, oui.
La Bérésina, ouais, c'est la Bérésina ou Waterloo, c'est là où...
Donc, en tout cas, une sorte de retraite militaire un peu compliquée. Oui. Et vous auriez à dire quoi d'autre, là ?
Beaucoup de mouvements.
Plusieurs matériaux, c'est en quoi ? Céramique, bronze.
C'est vernis.
C'est vernis, chocolat, du chocolat.
Non, pas en chocolat.
Puis, c'est sur du bois. C'est fixé sur du bois.
Ouais, il y a une espèce de socle en bois. Il y a même une quille en bois là. C'est pas très grand.
Céramique, alors.
Pardon.
C'est peut-être une céramique.
Céramique.
Papier mâché, non ?
Papier mâché.
Non, mais le pain, ça fait
penser. Ouais.
C'est pain.
C'est pain ?
Ouais. Ou ciré.
Pardon ?
Ça peut être ciré.
C'est de la cire. C'est une sculpture en cire.
D'accord.
C'est de la cire. Ce qu'elle est là est en cire. Alors, il y a quand même des éléments en bois, ne serait-ce que la terrasse, hein, puis l'élément en bois que je vous montrais qui tient le cheval. Il y a une armature en bois et en métal à l'intérieur. La cape qui s'envole au vent, vous avez bien vu que c'était un moment. Alors, c'est pas un effet de aussi haute, mais c'est vrai que ça y fait penser. C'est un personnage qui est évidemment dans le vent, quoi, enfin, au sens réel du terme. Hein. Et la cape est faite effectivement avec une sorte de papier plus ou moins mâché, effectivement, mais qui est recouvert d'une poudre de tissu. C'est une sorte de poudre de tissu.
Un flocage.
Voilà, c'est ça, un flocage.
Il a celle qui est blanche.
Ouais. Et alors, je crois que c'est un morceau. Enfin, c'est une pièce qui est faite en plusieurs. Il y a toute une série de matériaux. Et alors, c'est une pièce qui a été tirée en bronze. C'est une petite pièce, mais qui était. Ça, c'est-à-dire la pièce originale, mais il y a eu des quantités de tirages qui ont été faits. Vous avez une idée de cet artiste, qui est peintre aussi, qui est originaire de Bourgogne-Franche-Comté. Eh oui! Et qui s'appelle. Non, il n'est pas originaire de Bourgogne-Franche-Comté. Ah! Mais ce n'est. C'est pas loin. Hein. Voilà. Un guerrier.
Du Moyen-Âge.
Hein.
Il a une
côte de maille. Credo. C'est une sculpture qui s'appelle Credo. C'est un croisé. C'est un croisé. Qu'est-ce qui est marrant dans cette sculpture?
Elle est en forme de croix.
C'est ça, le credo est en forme de croix, un croisé en forme de croix. Et cette sculpture-là, elle vous rappelle quoi par rapport à ce qu'on a vu précédemment, par exemple ?
Versailles.
Oui, Versailles de Torix. Là, une sculpture historiciste, on essaie de faire une sorte d'archéologie médiévale, de montrer un grand passé remarquable. Donc c'est un peu la même chose. Une idée de l'auteur ? Emmanuel Frémiet. Qui est un membre de la famille de Rude, vous savez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sculptures de Frémiet au musée de Dijon, par exemple. Voilà. Ça représente qui?
Vénus.
Vénus, c'est une des possibilités, il y en a une autre. Diane. C'est effectivement Diane. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Diane, d'ailleurs?
Elle a un petit truc sur la tête.
Oui, un petit truc sur la tête. Ouais. Et ce petit truc qui est un petit peu cassé, c'était quoi à l'origine ? Les croissants de bulles. Ah, donc c'est Diane. Hein ? Oui, elle tenait certainement d'ailleurs un arc, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, là, si on va vite et qu'on regarde, on peut dire, c'est une sculpture néoclassique du début du siècle. Mais non, vous avez une sorte de manière, vous voyez, un peu d'élégance ou de trait, qui n'est pas du tout néoclassique. Le néoclassique, on pourrait montrer une Diane comme ça, vous voyez, antique, quoi. Hein, c'est pas parce que c'est du marbre que c'est forcément antique. Hein, c'est le sujet antique, c'est une Diane. Mais cette manière un peu altière d'avoir ce geste, un peu. Ça, c'est quelque chose qui, j'allais dire, sans l'éclectisme. Si on n'en est pas dans une sorte de rigueur antique, on est dans une emphase éclectique. C'est une œuvre de Falguière, Alexandre Falguière.
Un bébé.
Un bébé.
Avec son joujou.
Avec son joujou.
Son doudou.
En doudou. Et ses gros joujoux. C'est charmant, ça. Merveilleuse sculpture.
C'est en bronze.
Alors, ça peut être du bronze, mais ça n'en est pas. Enfin, il y a peut-être des épreuves en bronze, mais celle-là n'est pas en bronze. C'est en quoi ? Pas du marbre. Pas du plâtre.
C'est du bois.
C'est pas du bois, pas de la pierre.
C'est de la terre cuite.
C'est de la terre cuite. C'est un gré, en fait.
D'accord.
Et donc, ça représente un enfant du 19e.
Oh non, non, non.
Plus
ancien.
Ouais.
Renaissance, non.
Ouais. Et de quel, dans quel secteur, si j'ose dire?
D'une famille aisée.
Oui. Ouais. Très aisée. Même.
Ouais.
Pardon.
C'est un prince.
Oui, un prince ou une princesse. Ouais. C'est une sculpture d'un céramiste qui est également sculpteur, qui s'appelle Cariès, et ça s'appelle Infante. Ah, toujours cette veine historiciste qu'on a vue avec Frémiet, qu'on a vue avec Aimé Millet, on est toujours là-dedans. Ok ? On arrive vers la fin de cette série.
Cérès.
Oui, on peut effectivement y voir Cérès. Hein.
Déméter.
Oui, en tout cas une divinité liée à l'abondance. Il y a la faucille, hein, là, effectivement, une chair dans la main. Ok.
Qu'a-t-elle dans le dos ? C'est un chapeau de paille.
C'est un chapeau de paille. Oui, les moissons.
C'est en plâtre ?
Pardon, c'est en plâtre. Ouais.
C'est pas très grand.
C'est assez grand. La moisson, vous aviez raison. Vous voyez, c'est une manière qui confine un peu à l'allégorie, hein, mais qui est en même temps une sorte de réalisme, comment dire, fier, voyez. Par Henri Chaput, un des grands sculpteurs de cette période-là.
Une ado, on
dirait. Oh, on voit vraiment rien. Oui, on voit vraiment rien.
Une petite fille, est-ce qu'elle tient un jeu ?
Alors, en fait, c'est un petit garçon.
Un petit garçon.
Ah,
mais voilà, c'est très beau, mais là, on voit rien. On voit un fantôme, là. Alors là, je suis obligé de vous dire, parce que vous ne voyez rien. Ça représente le Christ, enfant. Jésus. Jésus. Jésus parmi les docteurs. C'est le moment où il est tout petit. C'est Jésus parmi les docteurs. Alors là, vous voyez ni Jésus ni rien. Enfin, voilà, vous êtes obligé de me croire. C'est une œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Raoul Larche. Raoul Larche, vous le connaissez sans doute si vous allez voir l'exposition au Grand Palais. C'est devant le Grand Palais, avant les escaliers qui vont là. Il y a une espèce de fontaine là, qui est de Raoul Larche. Ouais. Donc, ça c'est intéressant parce que ça fait aussi partie de ces sculpteurs qui ont beaucoup travaillé pour faire des quantités de sculptures de petite dimension. Vous voyez, là ça a été fait à Sèvres, en pâte tendre, c'est-à-dire en biscuit. Et c'est donc des sculptures que vous pouviez acheter assez facilement. Donc toujours là aussi ce côté historiciste. Hein, on a tout là. Alors là, pour le coup, c'est un sculpteur de la région. Enfin,
Ça, c'est éclectique.
C'est quoi, à votre avis ?
Un guerrier ?
Non.
C'est marqué sur le titre, mais j'ai mis un petit cache. Pas folle, la belle. Mais ça peut faire penser à Méduse. C'est en quelle matière ?
Il y a du bronze.
Oh, il y a tout, ouais. Du bronze.
La pierre.
Du bois. Du plâtre. Tout, il y a tout. Il y a essentiellement du bois, du métal et du verre. Les yeux. Donc c'est très éclectique, typique. Hein.
Une
sorte d'allégorie de quoi ?
De l'épouvante ?
Ça pourrait, mais d'une chose évidemment épouvantable. Ah, c'est un peu, ça fait penser à ça. C'est une œuvre qui s'appelle Bellone. Ah ben j'ai laissé le cache, j'aurais dû enlever. Qui s'appelle Bellone, et qui est de Jean-Léon Jérôme Canet à Vesoul. Hein. Jérôme, vous connaissez ses peintures, non ? Non, vous ne connaissez pas ? C'est des peintures, par exemple, qui montrent des jeux du cirque. On voit des gladiateurs en train de... J'avais jamais vu ça ? C'est ce qu'un... Alors, on connaît... C'est bizarre, en France, on connaît plus les films américains qu'on a fait d'après ça que les peintures allemandes, qui ont inspiré Cécile B2000, par exemple. Ça, on voit des gladiateurs dans l'arène, et puis on voit des... sur les... Vous ne connaissez pas ces peintures ? Ben, on fera un truc là-dessus un jour, tiens. Jean-Léon Jérôme, c'est un peintre très important, hyper célèbre aux États-Unis. Hein. Tous les musées américains ont des œuvres de Jean-Léon Jérôme. Ça a été hyper acheté par les Américains, qui se sont beaucoup inspirés pour faire les grandes productions.
Oui, c'est
hein,
c'est
Bellone, c'est la déesse de la guerre. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Bellone, c'est la déesse de la guerre.
Mais déesse de la guerre, pour qui?
Dans l'Antiquité, gréco-romaine.
Gréco-romaine.
Ah oui. Bellone, c'est la déesse de la guerre. Écoutez, Jean-Philippe Rameau, les opéras de Rameau. Il y a dans quel opéra il y a l'élection de Bellone? Je vous le dirai la prochaine fois. Mais voilà, Bellone, c'est la déesse de la guerre chez les Grecs, enfin, en Grèce et à Rome. Enfin, plutôt à Rome, d'ailleurs. Je crois qu'il y en a encore deux ou trois. Un bronze extérieur, une statue extérieure.
Donc c'est grand.
C'est grand.
Ouais.
Ah, Magellan, bonne idée, ça va être quelqu'un.
Mais c'est un navigateur.
Un navigateur.
Oui, parce que
si c'est pas Magellan, c'est qui? Ça peut être Christophe Colomb. Et si c'est Christophe Colomb, qui est-ce qui a pu faire une statue de Christophe Colomb? Quelqu'un qui a fait une statue très liée à l'Amérique.
Ah,
eh ben voilà. Bravo. La statue de Bartholdi, qui est de Christophe Colomb, qui se trouve à Rhode Island, aux États-Unis. Oh. Oui, c'est une sculpture épouvantable. Moi, j'ai
un bébé abandonné.
Un bébé abandonné. Oh. Ça s'appelle Le réveil de l'abandonné. Oh. Ah, je trouve que c'est une sculpture épouvantable. Enfin, extraordinaire et épouvantable. Alors, ça, c'est très réaliste. Mais encore une fois, vous avez vu que la sculpture réaliste n'est pas simplement ça. Parce que souvent, on dit que le réalisme, c'est que des scènes épouvantables, etc. Non, c'est aussi bien la petite couseuse ou la parisienne que l'enfant abandonné. Hein, c'est une œuvre poignante, ça. Eugène Robert. Et dernière œuvre avant la question du jour.
Un buste.
Un buste.
En marbre.
On voit vraiment mal. C'est
une jeune femme qui baisse les yeux.
Une femme.
Qui baisse les yeux.
Qui baisse les yeux.
Je
réfléchis. Non. Une. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça dit, ça? Évidemment, vous avez une servante en marbre, en buste.
La soumission.
Pardon.
La soumission.
Un peu, oui, elle baisse les yeux, effectivement. Donc, c'est une servante, elle ne regarde pas comme ça, d'un air en fondeur, effectivement.
Oui, mais elle a un petit sourire
ironique. Oui, peut-être c'est l'impression, mais dans la réalité, non. Mais avec ce projo qui ne va pas bien...
Elle est un peu émaciée.
Tu peux, mais elle est moins dans la réalité que le projecteur de... Là, vous, à vrai dire, vous avez des spectres. Mais je ne sais pas, vous avez vu beaucoup de portraits de servantes en marbre, je suppose.
Non,
oui. Ah non. Moi, c'est le moindre. Pardon.
Elle fait partie d'un ensemble.
Non.
Non, elle est toute seule.
Oui.
C'est
enfin, le sculpteur en a fait plusieurs du même genre. Hein.
C'est Marie-Antoinette.
C'est pas Marie-Antoinette, c'est bel et bien une servante.
C'est bien une servante.
Ah oui. Qui s'appelle même L'Angèle. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que vous avez là une sculpture réaliste, qui aborde une servante avec son petit costume, on voit mal là, mais bon, hein, son petit truc de servante. Mais cette servante, on ne représente pas, est-ce qu'on représente une servante? Non. Elle est représentée en marbre, qui est le matériau le plus cher, et en plus d'une manière qui reprend la sculpture italienne du XVe siècle. Rappelez-vous vos souvenirs quand vous allez à Florence. Vous voyez, des quantités de sculptures présentent des hauts personnages, les Médicis et autres, sont présentés comme ça en buste, comme ça. C'est-à-dire que là, Baffier, il représente une servante qu'on ne représente jamais à la manière d'une princesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le réalisme, c'est ça aussi. Le réalisme, c'est une sorte de... Enfin, on modifie les codes, on donne... C'est ce qu'a fait Millet, si vous voulez. Millet, quand il représente Angélus... C'est-à-dire deux paysans dont personne ne parle, qui sont l'objet du tableau, il fait ça. Il donne la peinture à des gens qu'on ne représente jamais. C'est la même chose avec Baffier. Une servante, quelqu'un qu'on ne représente pas, ben, l'a représenté, et pas dans une terre cuite un peu sympa, en marbre, et pas dans un style un peu... à la manière d'une naissance italienne. En gros, on convoque les éléments les plus chics pour représenter des personnes qu'on ne voit pas. C'est ça aussi le réalisme, si vous voulez.
C'est...
Voilà, c'est une sorte de noblesse qui est donnée au peuple. Hein, bah. Alors, on va rapidement aborder la question du jour. puisque là, on a terminé notre profil général de qu'est-ce que c'est que cette sculpture éclectique et réalise dans la deuxième moitié du 19e. Et une des choses qui est importante quand on travaille sur la sculpture en France au 19e, c'est que la question du jour, elle est horizontale et elle parcourt tout le siècle, hein, du début jusqu'à la fin. Hein, vous rappelez, enfin, c'est ce qu'on avait fait déjà, à travers les têtes d'expression. Une des choses qui est marquante dans la sculpture en France au 19e, c'est qu'elle est très souvent utilisée au niveau des monuments. La sculpture, elle est souvent monumentale. Et à vrai dire, on voit des tas de sculptures, mais comme je vous le disais, on ne les voit pas. Ces sculpteurs, on ne les voit pas. Ils sont là autour de nous, on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Et on va à Paris, on regarde plein de monuments, et on ne sait même pas qui fait les sculptures. Tenez. C'est quoi ça ? Très bien. Arc de Triomphe. Voilà une des sculptures de l'Arc de Triomphe. C'est quoi ? L'Arc de Triomphe, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas connu. Hein. Alors c'est quoi ça ? Sans le pilier gauche, l'Arc de Triomphe.
C'est le couronnement de Napoléon.
De Napoléon, absolument. C'est le triomphe de Napoléon. C'est de qui ? Rude.
Ça, c'est Rude.
Ah, ça, c'est Rude. Donc il y a deux choses de Rude.
La victoire.
La victoire. La Marseillaise. Hein, c'est, précisément, c'est l'enrôlement des volontaires. Effectivement, on a très vite donné le nom de la Marseillaise à cette œuvre qui est effectivement de Rude. Cocorico, c'est un bourguignon super. De l'autre côté de l'Arc de Triomphe, la face qu'on ne voit jamais. Qu'on ne regarde pas. C'est ce que je vous ai dit, on ne regarde pas. On ne regarde pas. On ne regarde pas la sculpture des lumières. Ça, ça représente quoi ?
Alors, ça, c'est...
Voilà, oui, c'est pas la moisson, je sais pas.
La moisson ?
La paix.
La paix, ça vous va, ça ? On va voir après. Hein. La paix. Allez.
Ça, c'est guerrier, ça.
Là, c'est guerrier. La guerre. La guerre. La guerre. Bon.
Mais non, je...
La guerre.
Et c'est qui, ça ?
Allez.
Oui. Oh. Alors, ça, c'est pas Rude.
C'est Cortot.
C'est Cortot. Et c'est bel et bien très dans Napoléon. Bravo. Ça, vous l'aviez bien vu, hein, c'est la Marseillaise. L'enrôlement des volontaires de Rude, de sculpture ultra célèbre, c'est là. À l'arrière, vous avez trouvé, c'est l'appel, eh bien, une sculpture de Etex qui a réalisé les deux sculptures, celle-ci et celle d'en face. Ça, c'est la paix. Et de l'autre côté, c'est pas tout à fait la guerre, mais pas loin, ça s'appelle la résistance. Vous voyez, même pour un monument comme ça, super connu, quand on change un drapeau en dessous, la France, le monde entier en parle. Hein. On va bien, c'est-à-dire. Par contre, on ne connaît pas le monument. Ça, c'est typique de nous. Hein. On a une école de sculpture inouïe en France, et là, on l'ignore complètement. Dans le monument, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le problème, hein, mais qui est peut-être le plus emblématique de notre pays, on ne connaît pas. Alors on continue. Allons voir par exemple ceci. Le monument agricole. Très bien. Jusque-là, sans faute. Ça représente quoi ?
La musique.
La musique. Donc c'est une allégorie de la musique. Donc ce gars-là, c'est la musique. C'est un gars, mais c'est la musique quand même. C'est Apollon. Apollon, donc le symbole de la musique, Apollon avec sa lyre. Super. Donc, on ne regarde que quelques sculptures de la façade. Hein. Le chant, pas mal comme idée. Tous les sculpteurs, ou la plupart, sont des sculpteurs qu'on a déjà vus. Mais difficile à deviner, on verra après. La musique, le chant, la musique, ouais.
Oui, parce que c'est dans l'instrument, là.
Ok, la musique.
La danse.
De qui ? Alors ça, vous connaissez. Carpo. Alors, petit détail, vous savez que cette sculpture qui est devant l'Opéra de Paris n'est pas l'original. L'original de Carpo est donc au musée d'Orsay, et ça, c'est une copie qui a été faite par... Par le père d'un acteur célèbre.
Belmondo.
C'est que le père de Belmondo était sculpteur. Hein. C'est lui qui a fait la copie de la danse de Carpo. Bravo.
Qu'est-ce que vous faites ? Alors, quels sont les différents arts qui
qui vont avoir lieu dans l'opéra.
Voilà. Musique, voilà. Exactement. Les groupes que vous avez là, c'est effectivement les différents arts. Vous l'avez bien dit, hein, la musique, le chant, la danse. Et là,
le théâtre.
Eh bien, allons-y pour le théâtre. Ouais. Et puis, vous avez quatre autres sculptures.
Les bus,
pourquoi pas. Alors, on voit la une.
Il y en a neuf.
Ah oui, on n'est pas rendu alors. Et pourtant, je vais vous en montrer que quatre. Et il n'y en a que quatre. Donc, ce n'est pas les muses. Mais c'était une idée. Bon, je vous les montre. De toute façon, ça va être c'est quand même un peu. Ça peut être quoi, par exemple? Il faut dire qu'en plus, avec cette lumière.
Remusique.
Alors, on relève les copies. Voilà une œuvre de Aimé Millet. Ça vous dit quelque chose? Notre Vercingétorix, ce moustachu tout à l'heure, c'est lui qui a fait cet Apollon, hein, qui est entouré de la poésie et de la musique. Normal. En dessous, vous avez donc quatre grosses sculptures. Hein. Ça, c'est la poésie lyrique. Je vous fais, on n'a rien vu encore de tout. Hein. Là, Eugène Guillaume, qui est un sculpteur de la région, hein, Cocorico. Hein. Voilà la musique instrumentale. Vous avez raison, vous disiez la musique. La danse du carpeau, ça, c'est OK. Et là, c'est en fait le drame lyrique. Et ça, c'est de Jean Perrault, on n'a rien vu lui encore. De Eugène Eslin, voilà l'idylle. Vous voyez une petite femme, voilà. Chapu, vous savez, on a vu une œuvre de lui tout à l'heure. Vous vous rappelez, hein? La cantate. Le chant de Dubois, Paul Dubois, Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Et là, de Falguière, vous rappelez la Diane, l'altière de tout à l'heure, hein, eh bien, c'est lui qui a fait le drame. Vous voyez que tous les sculpteurs que je vous ai montrés, on les retrouve beaucoup dans tous ces monuments-là. Tiens, puis pêle-mêle, deux, trois petites choses. Ça. Vous voyez où c'est, ça? C'est un des plus grands monuments en bronze du 19e en France.
Il y a des lions.
Ouais. Ça, c'est où? Dans un jardin. Paris, place de la Nation. Le triomphe de la République. Tout un programme. Hein. Une œuvre de Dalou, c'est la petite couturière de tout à l'heure. C'est le même. Parce que là, vous voyez, par exemple, il a fait un ouvrier. Hein. Là, il y a une paysanne. Enfin bref, il y a une sorte de vocabulaire réaliste, et c'est lui donc qui a fait ça. Alors c'est marrant parce que ce groupe, vous êtes déjà allé Place de la Nation, hein, il y a ce gros groupe énorme au centre. Il faut traverser puis aller voir, c'est magnifique. Hein. Et alors autrefois, cette œuvre, elle était au milieu d'un bassin, et dans le bassin tout autour, il y avait des monstres qui évidemment étaient là pour bouffer la République. Durant l'occupation, ces bronzes-là ont été enlevés et fondus. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que le groupe central. C'est dommage parce que les espèces d'animaux qu'il y avait autour étaient évidemment intéressants et qui donnaient le sens à l'œuvre. Hein. Là, vous revoyez à nouveau le groupe central et les bronzes autour. Dans un bassin, c'était vraiment très bien. Tiens, puis à les pêle-mêles, deux, trois bricoles encore.
C'est à
Lyon. C'est par qui? Bartholdi. Bartholdi. Vous savez que c'est une œuvre qui est à l'origine d'être faite pour Bordeaux, qui s'appelle la Garonne. Puis puisque Bordeaux avait commandé, puis finalement n'a pas voulu, eh bien c'est Lyon qui l'a acheté. Et c'est devenu les fleuves et les sources à Lyon. Parce que la Garonne à Lyon...
c'est
ça.
La Mais ça, c'est chez nous.
Au Creusot.
Oh, oui.
C'est quoi, ça?
C'est Eugène Schneider.
Eugène Schneider. Et c'est par qui? C'est par Chapu. Chapu, dont on a déjà vu plusieurs œuvres tout à l'heure. Hein, vous voyez, vous commencez à les retrouver. Hein.
Le génie de la Bastille. Non. Ah non, c'est ça.
C'est ça.
Ouais, et ça se trouve où?
Mont-Saint-Michel.
Bravo. Et c'est dû à... Credo.
Credo.
Ah, Credo.
Oui, celui qui a fait le...
Oui.
Première. Voilà. Et c'est donc effectivement au-dessus, là-haut. Ouais. Et puis, bien sûr, par, parce que vous connaissez tous, hein, par un sculpteur bourguignon du 19e, dont on a parlé déjà tout à l'heure. Ah. Par Eugène Guillaume. Vous savez, le gars de Montbard, qui a fait une des sculptures qui est devant l'Opéra de Paris. Hein ? Et ben voilà, Eugène Guillaume, c'est lui qui a fait Nicéphore Niépce. Pas mal, hein ? Voilà, enfin, c'était pour vous montrer cet élément qui est fondamental, qui est que les sculptures au 19e, elles partent beaucoup les monuments. Et cette dimension-là, monuments qui sont simplement des sculptures publiques ou qui sont des bâtiments, si vous voulez, sont saturés de sculptures. Mais encore une fois, on les regarde très très peu. Or, c'est important de les voir. Il n'y a pas que les cathédrales avec des sculptures. Elles sont là, c'est merveilleux. Il n'y a pas que ça. Une espèce de peuple de sculptures du 19e, ben, c'est aujourd'hui important de mieux les considérer. Voilà, et ben, on se retrouve dans une semaine pour d'autres aventures. Bravo à vous. Il en faut un peu, effectivement. C'est pas fini, est-ce que j'en ai une autre par derrière?